Que c'est beau, la terre vue du ciel. Vous avez certainement déjà vu ces images impressionnantes. D'ailleurs, Yanis en avait mis une magnifique avant. On voit le globe terrestre avec cette puissante forme ronde qu'il a. Et là, c'est une autre image vue du ciel. Certainement, vous la connaissez. Elle vous rappelle quelque chose. Elle vous rappelle en tout cas un lieu. Alors, c'est pris par un astronaute célèbre, Thomas Pesquet, célèbre astronaute français, qui, depuis la station internationale, qui se trouve à peu près à 400 km, a pris une photo de ce palmier de Dubaï. 400 km, alors, pour les spécialistes, il a pris un doubleur, 2 fois 800 mm. C'est vraiment le maximum qu'il a pu utiliser pour faire cette photo de ce palmier qui, bien célèbre en tout cas, pris en 2021, mais qui représente ici une superficie assez surprenante de 31 km carrés. On ne dirait pas, hein, vu comme ça, et pourtant on est à 400 km de la Terre. Voilà d'ailleurs, parmi ces images, il y en a d'autres qui sont célèbres, mais celle-ci je crois qu'elle va nous parler aujourd'hui. Ça, c'est ce que l'homme a réussi à façonner avec des moyens technologiques considérables. Alors, ne pensons pas trop à l'environnement ni à l'écologie. Regardons l'œuvre humaine ici. Ce que, du ciel, on voit sur la terre. Et des paysages façonnés par l'homme, il y en a beaucoup, beaucoup, comme celui-ci. Alors, mes amis, qu'est-ce qu'on voit depuis le ciel? Que voit-on depuis le ciel sur la terre? Et notamment quand on parle du ciel, on parle le plus souvent, en tout cas bibliquement, des cieux. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à une réflexion sur ce que Paul nous dit des cieux. Et de ce rapport entre les cieux, ou les hauts cieux, comme on les a chantés ce matin, et la terre. Alors lorsqu'il, et là je prendrai particulièrement la lettre de Paul aux Éphésiens, dans les chapitres 2 et 3, si vous souhaitez suivre avec moi. Dans cette épître, Paul va utiliser un terme pour parler des cieux, un terme particulier que l'on va retrouver 5 fois. Le premier se trouve dans le chapitre 1er au verset 3. Il est question ici, au chapitre, donc, chapitre 1er au verset 3, « Béni soit le Dieu du Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Donc là, le ciel ou les cieux, c'est le lieu de la bénédiction spirituelle. Toujours au chapitre 1er, au verset 20, cette fois il est question du lieu dans lequel Jésus est ressuscité. C'est le lieu de la résurrection, c'est d'ailleurs le lieu dans lequel Jésus se tient à la droite du Père. Éphésiens 2 au verset 6, c'est le lieu dans lequel nous sommes assis ensemble avec le Père et le Fils. C'est le lieu dans lequel sont rassemblés finalement tous ceux qui sont ressuscités. Il y a une référence en Éphésiens 3:10, sur laquelle je reviendrai un tout petit peu plus tard, et une dernière référence, Éphésiens 6 au verset 12. Et là, alors là, je dirais qu'on change un tout petit peu de monde, puisque dans ce chapitre-là et dans les mots de Paul, le ciel ou les cieux, les hauts cieux, c'est le lieu des esprits méchants, c'est le lieu des ténèbres. Donc on le voit bien dans la formulation différente de Paul, eh bien les cieux c'est le lieu à la fois de la présence éternelle de Dieu, la présence éternelle du Christ, c'est la puissance de l'Esprit, mais c'est aussi, malheureusement, le lieu des puissances ténèbres, des ténèbres. On pourrait imaginer que par analogie, et j'imagine là ne pas m'avancer trop en disant cela, que lorsque Paul parle de ces hauts cieux, il fait référence, lui, avec son bagage culturel, il fait référence à quoi quand il dit les hauts cieux? Il fait référence à toute la conception que pouvait avoir le peuple de l'Alliance de Dieu, de cette présence de Dieu. Les hauts cieux, c'est le sanctuaire de Dieu. C'est le sanctuaire céleste. C'est le lieu de la présence éternelle de Dieu. C'est le lieu de sa manifestation, le lieu de sa puissance. Le lieu d'où, finalement, Dieu règne. Mais ce lieu dans lequel Dieu règne, c'est aussi le lieu dans lequel Jésus est présent. Et nous le savons. Il est désormais présent à côté de lui. Et si nous regardons Éphésiens 4 au verset 10, le texte nous dit la chose suivante. Car, en parlant de Jésus, celui qui est descendu est aussi celui qui est monté au plus haut des cieux, afin de remplir tout l'univers. Alors là, quand on parle de l'univers, on ne parle pas simplement de la terre, on ne parle pas simplement du ciel, mais on parle de l'univers entier, des cieux entiers. Mais cette place, et vous l'aurez compris, cette place que Jésus a prise, elle est convoitée. Cette place-là, il y a l'ennemi de Dieu qui ne veut pas que Jésus la prenne, même si Jésus l'a déjà. Mais pour nous qui sommes ici sur terre, c'est de nous faire comprendre ou nous faire croire que finalement, il n'est pas là où il est et que finalement, il n'est pas le Tout-Puissant. Et c'est ce fameux conflit que nous connaissons entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. Mais vous allez me dire, en quoi nous, ici sur terre, sommes-nous concernés par tout ça ou par ce qui se passe dans le ciel? Parce qu'on pourrait imaginer que finalement, c'est un conflit spirituel, c'est un conflit cosmique, comme on aime bien utiliser ce terme. En quoi sommes-nous concernés? Eh bien, c'est là où les chapitres 2 et 3 de Paul, toujours d'Éphésiens, vont nous apporter quelques éléments très intéressants et très importants. Au chapitre 2, Paul va expliquer l'importance, finalement, de la grâce de Dieu. Il va nous dire que, finalement, tous les juifs et les non-juifs, c'est-à-dire, en gros, l'humanité entière, cette humanité est réunie et forme désormais un seul peuple, c'est le peuple de Dieu. Un seul peuple parce qu'en Christ, finalement, les barrières, les murs qui existaient ont été abattus. Ces murs qui faisaient une différence entre ceux qui étaient élus, le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance, et puis finalement ceux qui ne l'étaient pas. Rappelons-nous, Paul s'adresse aux Éphésiens ou à ceux d'Éphèse. Et donc, il est venu pour établir la paix et il est surtout venu, donc le Christ, pour établir cette relation qu'il y avait entre Dieu et les hommes. Rétablir cette relation qui avait été brisée. Et désormais, en Christ, eh bien, nous avons, nous dit le texte, un libre accès à Dieu et nous formons une même famille qui lui appartenons. Et au chapitre 2 et au verset 22, il nous est dit, d'ailleurs, que l'unité est solidement assurée par le Christ, par Jésus lui-même. Il est d'ailleurs intéressant de noter, toujours dans Éphésiens au chapitre 2, le verset 6, que Paul précise que dans son grand amour, eh bien, il nous a ressuscités ensemble et nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et là, rappelez-vous, c'est ce terme des hauts lieux, du haut ciel, des hauts cieux, en Jésus-Christ, pour montrer, lisez bien le texte avec moi, pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Tiens, tiens, pour montrer dans les temps à venir. C'est assez énigmatique ce que Paul dit ici. Finalement, ce que Dieu a fait en Jésus-Christ et qu'il va faire pour nous est là pour montrer quelque chose. Il est là pour montrer cette grâce et cette bonté de Dieu envers nous. Mais vous allez me dire, mais le montrer à qui? Et montrer, alors nous savons quoi, mais nous ne savons pas encore exactement à qui. Unis à Christ, nous sommes, et nous le savons maintenant, donc tous membres d'un même corps. Nous l'avons chanté ce matin, d'une même famille. On est tous au bénéfice de cette bonne nouvelle en Christ qui est promise à tous, celle d'être sauvés par le Christ lui-même, par ce qu'il a fait à la croix, par sa mort et sa résurrection. Et là, j'ai envie de dire que finalement, cette mission du Christ, c'est le ciel qui est descendu sur la terre, ou les cieux qui sont descendus sur la terre. Du moins, se sont-ils tellement approchés que ce Jésus est presque physique. Il était physique. Et nous arrivons à nous identifier à lui parce qu'il nous a laissé un témoignage dont nous pouvons nous inspirer. Et donc cette distance entre le ciel ou les cieux et la terre a été largement réduite par cette présence et cette venue de Jésus. Mais il reste toujours un fossé infranchissable. Il reste toujours cette distance qui, malgré la présence du Christ physique, qui est reparti, eh bien nous nous retrouvons aujourd'hui avec cette distance-là. Cette distance qui est comblée par le Christ, certes, mais qui ne pourra être comblée que le jour où le Christ reviendra. Mais alors vous allez me dire, mais en attendant, que faire? Que devons-nous faire? Est-ce que nous devons rester par rapport au ciel notamment, et sur la terre, mais au ciel aussi, par rapport au ciel, les bras croisés, en attendant tout simplement que les choses se passent? Et c'est là où je vous invite à prendre le texte d'Éphésiens 3 et le verset 10. Et le verset Éphésiens 3, 10 et 11 nous dit la chose suivante. Grâce à l'Église, notez bien, les autorités et les puissances dans les cieux connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Tout cela est conforme au projet éternel de Dieu qu'il a réalisé par Jésus-Christ, notre Seigneur. Rappelez-vous, dans Éphésiens 2, on avait déjà entamé l'idée que nous étions là, enfin la terre, l'Église était là pour représenter quelque chose. Nous, en tant qu'humains, nous étions là pour représenter quelque chose, dans les temps. Ici, on ne parle plus des temps, on parle plus de ses puissances et de ses dominations, de ses autorités. Alors là, ce n'est pas simplement, nous l'avons vu, le ciel qui rejoint la terre, mais c'est ici le ciel qui observe la terre. Nous sommes observés, nous sommes regardés, puisque ces autorités ici et ces puissances, nous dit le texte, eh bien, elles connaissent quelque chose à travers nous. Effectivement, cela fait écho ici à ce que nous avons vu, mais finalement, ces autorités et ces dominations, qui sont-elles? Alors là, c'est vrai que Paul reste très énigmatique. Puisque nous l'avons vu dans une autre partie de son épître aux Éphésiens, dans le chapitre 6, il va dire que c'est les puissances négatives, c'est les puissances qui s'opposent à Dieu. Et dans les autres références que nous avons données, eh bien, ce sont des présences positives. C'est le lieu de la présence de Dieu, c'est la présence du Christ, c'est notre présence à nous un jour auprès de Dieu. C'est là où se manifeste l'amour de Dieu, sa puissance, mais c'est aussi le lieu dans lequel, rappelons-nous, eh bien, il y a des puissances des ténèbres. Donc, ces autorités et ces puissances, Paul ne nous dit pas exactement si elles sont positives ou négatives. Finalement, j'ai l'impression que ce n'est pas très important pour lui, parce qu'il sait qu'elles existent. Et avec les mots qu'il utilise, il essaie d'expliquer ce qu'il comprend de ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Alors, d'un côté, on peut imaginer que ce sont peut-être les anges de Dieu qui contemplent les perfections de Dieu. Ils apprennent à les connaître mieux à travers quoi ? À travers ce que nous faisons, à travers ce que nous disons, à travers notre manière d'être. Mais ce sont aussi peut-être les anges qui sont ennemis de Dieu. Alors eux aussi, ils observent. Alors eux, ils scrutent. Et ils regardent l'attitude que Dieu a envers nous et que nous avons en retour par rapport à lui. Dans les deux cas de figure, et c'est ce que je crois ici chez Paul, nous sommes observés. Non pas simplement observés, mais parce que nous avons un témoignage à rendre. Le mot qui est utilisé, c'est montrer, rappelez-vous, au temps, mais c'est aussi faire connaître envers le ciel. Et là, mes amis, c'est la terre qui montre au ciel. Donc, ce n'est pas simplement de haut en bas, mais là, c'est nous qui sommes observés. Et c'est à nous, finalement, de lever les yeux pour apporter quelque chose. Le texte de Paul nous dit bien que ce qui doit être montré au ciel, c'est quoi? C'est quoi l'attitude qui doit être montrée ici? Et à qui il est demandé d'avoir cette attitude particulière? Et le texte est très clair, nous l'avons lu, c'est l'Église. L'Église, c'est-à-dire nous, l'Église comme témoin vivant et bénéficiaire de cet amour de Dieu. De montrer la grâce de Dieu Et finalement, à travers ce qui nous est dit ici, l'Église a une double mission. Elle a la mission terrestre, mais elle a aussi cette mission, si vous me passez l'expression, et c'est ce que Paul veut nous dire ce matin, elle a aussi une mission céleste. Ellen White va d'ailleurs écrire à ce propos, à propos de ce verset 10 du chapitre 3 d'Éphésiens, « L'Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. Établie pour servir, elle a pour mission de proclamer l'Évangile. Appelée des ténèbres à sa merveilleuse lumière, les hommes qui la composent doivent refléter sa gloire. L'Église est la dépositaire des richesses de la grâce du Christ. » Et elle termine en disant, c'est par elle que l'amour de Dieu se manifestera finalement de façon puissante et décisive aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes. Deux remarques importantes. Peut-être deux questions que vous vous êtes déjà posées. La première, c'est que le texte de Paul ne nous dit pas que nous devons montrer quelque chose à Dieu. Le texte ne dit pas que nous devons faire connaître quelque chose à Dieu. L'Église n'est pas là pour montrer quelque chose à Dieu ou au Christ. Elle est là pour montrer quelque chose aux dominations et aux puissances. Ce qui veut donc dire que finalement, ce que nous faisons, eh bien, n'est pas une observation que Dieu fait sur nous en regardant si éventuellement nous allons faire des fautes ou si éventuellement nous allons être dans un mauvais chemin. Parce que si c'est ce Dieu-là, eh bien, je pense que nous avons une telle grosse responsabilité qu'on ne va jamais y arriver. Et pourtant, combien de fois avons-nous ce regard que Dieu nous observe, pas d'un amour positif, mais d'un amour qui finalement veut nous corriger. Alors certainement qu'il y a une correction. Mais ce que Paul veut nous dire ici, c'est que nous ne sommes pas ici pour montrer quelque chose à Dieu, pour que Dieu puisse nous dire « vous avez marqué des bons points », mais beaucoup plus pour nous faire comprendre que si nous sommes observés, c'est parce que nous sommes observés surtout pour ces dominations et ces puissances. Et que nous sommes là pour faire connaître à ces êtres, et laissez-moi souligner ce point, ces êtres créés. Parce que Dieu est un créé, il n'est pas créé. Le Fils non plus, l'Esprit non plus. Par contre, les dominations et les puissances, elles le sont. Ça peut être des anges célestes. Ce sont des êtres créés. Et finalement, le Paul va d'ailleurs dire, parce qu'il pense peut-être que nous pouvons être susceptiblement tentés de penser que Dieu nous observe du coin de l'œil pour voir si nous agissons juste, il va dire, par la foi en Christ, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc ce n'est pas ce regard-là qu'il faut imaginer. Et puis la deuxième chose, et elle est essentielle ici, c'est de bien comprendre que, dans le passage, si la terre est appelée à une telle mission, c'est qu'elle est soutenue par l'autorité du Père, la présence personnelle du Christ et la puissance du Saint-Esprit. Vous aurez remarqué ici que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont associés. C'est le Dieu trois fois saint qui nous soutient dans notre mission. Nous ne sommes donc pas seuls. Et là, ce n'est pas la terre qui montre quelque chose, ni le ciel qui attend quelque chose de nous, mais c'est le ciel qui s'associe avec nous dans la mission. Et finalement, ces trois remplissent chacun une mission particulière. Les trois personnes de la divinité qui n'en forment qu'une sont là pour nous montrer à quel point leur mission ou la mission qu'ils nous donnent est essentielle. Parce que si les trois se mettent d'accord finalement dans leur divinité pour nous montrer ce que nous devons faire, c'est parce que la mission est cruciale. Finalement, c'est Dieu Père, Fils et Saint-Esprit qui agissent conjointement en nous, dans nos cœurs, dans notre intérieur pour que nous puissions produire du fruit vers l'extérieur et que cette visibilité ne soit pas visiblement simplement au niveau horizontal, mais bien également au niveau vertical. On le sait, et vous le savez comme moi, l'Église ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un lieu, c'est le rassemblement, c'est l'unité de tous les chrétiens. Nous sommes ici l'Église, nous ne sommes pas dans une Église, certes, mais nous formons l'Église ensemble. Mais alors, si cette Église elle est constituée d'individus, qu'est-ce qui est demandé particulièrement à ces individus, c'est-à-dire à nous-mêmes, d'être Église. Comment pouvons-nous agir pour former cette Église? Et là, c'est le passage d'Éphésiens 3, à partir du verset 14. Finalement, Paul nous fait toute cette introduction pour nous amener précisément à ce passage-là. Qu'est-ce que nous apprenons ici? Là, Paul commence en disant « à cause de cela », donc à cause de tout ce qu'il vient de dire, en raison de tout ce qu'il a expliqué jusqu'à présent, la première chose que Paul fait, c'est « je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que quoi ? Que Christ habite dans vos cœurs. » Donc la première chose qu'il faut faire, c'est reconnaître l'autorité du Père. Paul se met à genoux ici, devant lui. La deuxième chose, c'est que Paul demande à Dieu de nous rendre forts par l'Esprit, donc de dépendre de cette puissance de l'Esprit de Dieu. La troisième chose que Paul nous dit dans ce texte, c'est que Christ habite dans nos cœurs. C'est peut-être l'élément clé finalement, c'est l'aboutissement de Paul, mais c'est aussi le début de tout ce que nous pouvons vivre entre nous, en nous, sur terre, vis-à-vis du ciel. Et le quatrième point, et il le dit un tout petit peu plus loin, c'est que nous soyons enracinés et solidement établis dans l'amour. C'est ce qui suit juste, il dit « Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints. » Finalement, on voit bien que c'est seulement ainsi que nous pourrons comprendre avec tout le mystère que ça peut être lorsque Paul parle de la largeur, de la hauteur, de la longueur, de la profondeur. C'est uniquement pour essayer de dire avec des mots humains que c'est le grand mystère, le plus grand mystère de Dieu pour l'humanité. Un mystère tellement au-dessus de nous qu'il est tellement loin, à des milliards de kilomètres, et pourtant tellement proche, parce que ce mystère a été incarné en Christ. Oui, c'est ici la terre qui est invitée à mettre ses racines au ciel. C'est la terre qui se met à genoux devant le Père, de qui toute puissance vient. Et ses racines, et c'est tout ce que Paul va développer ensuite dans le chapitre 4 et suivant d'Éphésiens. Et ces racines que nous plantons au ciel, finalement, vont nous amener à produire quoi ? Le ou les fruits de l'Esprit. Et il le donnera, l'humilité, la douceur, la patience, l'unité, la paix. Et voilà que nous retombons sous nos pattes. Nous sommes partis de l'unité pour revenir à l'unité. Parce que cette unité n'est créée pas par une volonté humaine, mais par la volonté de l'Esprit. Est-ce que nous sommes, chers frères et sœurs, est-ce que nous sommes conscients de l'importance que Dieu met à la mission donnée à l'Église ? Est-ce qu'au regard de ce texte, nous comprenons que nous ne sommes pas là simplement, finalement, pour évoquer et chanter ensemble ? Ça, c'est bien pour recevoir une parole de Dieu, bien sûr que c'est bon. Mais que nos cœurs, nos esprits, nos mots, nos chants s'élèvent bien au-dessus du plafond de cette Église. Et que tout ce que nous pouvons faire en tant qu'Église, tout ce que nous pouvons faire en tant qu'unité, va percer le plafond. Et nous sommes l'Église ici, mais nous sommes l'Église ailleurs. Et Paul dira d'ailleurs cette phrase énigmatique, « Sommes-nous conscients que nous sommes aussi en spectacle aux anges et aux hommes ?» 1 Corinthiens 4,9, en spectacle. Alors, c'est jamais très positif, le spectacle. Mais ça veut dire que nous avons quelque chose à montrer, nous avons quelque chose à témoigner de puissant. Et certains me disent, mais dans le fond, je n'ai pas besoin de venir à l'Église, je n'ai pas besoin d'une communauté particulière pour vivre ma relation à Dieu. Oui, mais ce n'est pas ce que Paul nous dit ici. Vivre sa relation à Dieu seule, oui, mais elle n'a de sens dans la mission que si elle est vécue ensemble. Elle n'a de sens que si elle n'est vécue ensemble, cette unité. Parce que c'est l'unité qui fait que ce qui est vu du ciel, c'est peut-être pas que des individus, mais lorsque les individus se mettent ensemble, là, le ciel peut véritablement voir. Et finalement, ce ciment, ce n'est pas en l'homme, ce n'est pas parce que nous nous réunissons, mais parce que nous nous réunissons en Christ. Et c'est ainsi que nous pouvons faire connaître et témoigner. Mais si mon cœur à moi n'est pas ancré dans le Christ, je ne peux rien faire. Je ne peux pas faire partie de l'unité de l'Église, être uni en Christ, si Christ n'habite pas en moi. Un corps sans cœur est mort, mes amis. Et le cœur, c'est le nôtre qui bat, mais qui bat pour Christ. Un corps sans cœur est mort. Et combien, malheureusement, avons-nous de cœurs qui ne battent plus dans nos communautés ? Celles et ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Celles et ceux qui sont peut-être présents, mais dont le cœur a peine à battre. Et tous les cœurs qui battent à l'extérieur et qui aimeraient savoir pour qui ils doivent battre. J'aimerais revenir sur cette image que nous avons lue du psaume et que Gemma nous a lue du psaume 92. Il nous dit quoi ce psaume ? Il nous dit « Le juste pousse droit comme un palmier ». Il s'étend comme un cèdre du Liban, il est un arbre planté dans la maison du Seigneur. Il s'épanouit dans les cours du temple de notre Dieu. C'est qui ce juste ? C'est qui ce juste dont il est question ici ? Mais mes amis, c'est nous. Nous sommes appelés à grandir comme le palmier et à devenir aussi grand et fort que le cèdre du Liban. Mais ce cèdre, vous avez déjà essayé de cacher un cèdre ? Ce n'est pas possible. Et ce cèdre, il est planté où ? Dans la cour extérieure du temple. Le texte dit très clairement ici, les cours extérieures du temple. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ce n'est pas dans la cour cachée, juste pour que les initiés aient le droit de le voir. On n'est pas dans le saint des saints. On est dans le lieu accessible à tous. Et ça doit se voir. Ce palmier, ce cèdre, ils sont visibles. Et même quand il vieillit, il donne du fruit. Vous savez que le palmier a une symbolique très puissante dans la Bible. Le palmier représente d'ailleurs la puissance, représente le triomphe, représente l'honneur et la gloire. Alors oui, ici à Dubaï, ils ont fait un palmier. Certainement que dans la culture moyen-orientale, eh bien, le palmier reste cette symbolique que, évidemment, qui est reprise dans la parole de Dieu. Les plantes, comme le palmier, ne tirent sa sève non pas de la palme elle-même, mais du tronc. Et c'est parce que la palme est attachée au tronc qu'elle tire sa force. Et notre tronc à nous, c'est qui ? C'est le Christ. Nous ne pouvons rien, nous, en tant que feuilles de palmier, il y en a 17 hein, ici, vous pouvez compter, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes si nous ne sommes pas attachés à ce tronc. Et ce tronc et ces palmes sont aussi vus comme la victoire de Dieu sur le péché, l'adversaire de Dieu et le monde. Oui, le juste qui s'étend ainsi est rempli de l'amour de Dieu. Il est rempli de cette confiance parce qu'il sait que la mission qui lui est donnée n'est pas la sienne. Il va verdir, il va être dans un lieu visible. Dieu ne veut pas que nous nous cachions de ce que nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Nous n'avons pas à nous gêner, même si c'est difficile aujourd'hui. Nous n'avons pas à avoir honte, nous n'avons pas à nous retenir de cette puissance de Jésus en nous. Jésus nous appelle à crier ce nom. Il nous appelle à célébrer ce nom par notre attitude. Nous formons l'Église, mes amis. Ce n'est pas ici seulement, mais à l'extérieur. Nous sommes l'Église. Et si cette Église, c'est nous, et si ensemble, réunis, nous sommes visibles depuis le ciel et que nous faisons connaître aux autorités célestes, bonnes ou moins bonnes, ce que nous sommes et qui nous sommes, c'est pour révéler la puissance du Christ dans nos vies. Et que nous ayons eh bien, cette confiance, qu'un jour la terre et le ciel seront à nouveau pleinement réunis. Un nouveau ciel et une nouvelle terre, qui promettent une présence éternelle de Dieu, le Dieu trois fois saint, saint dans le Père, saint dans le Fils et saint dans le Saint-Esprit. Oui, lorsque Thomas Pesquet a pris cette image, lorsqu'il a pris cette image à 400 kilomètres de la Terre, il a dit une chose. Et d'ailleurs, je suis sûr que vous avez eu la même réaction. Quand vous voyez ces palmiers, parce qu'il y en a deux ou trois, sauf erreur. Quand vous voyez ces palmiers depuis l'espace, vous savez que vous regardez quoi ? Dubaï. Est-ce que quand les cieux regardent l'Église, y voit-il le peuple de Dieu comme reflet de son amour ? Voit-il le peuple de Dieu comme fidèle à la parole révélée en Jésus-Christ ? Voit-il dans l'Église l'amour tellement grand d'un Père qui veut en son Fils renouer la relation entre lui et nous ? Et un Père qui veut nous rassembler pour un jour que nous vivions définitivement avec lui dans sa maison. Ma question, avons-nous envie d'être cette Église-là ? Avons-nous envie de vivre dans cette perspective-là ? Eh bien, que nous puissions, ce matin, dans nos cœurs, dans nos vies, rendre gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, et à l'Esprit qui habite en nos cœurs pour les siècles des siècles. Amen.